Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans le journal de 13h au sommaire aujourd'hui. Deux agents soupçonnés de radicalisation et désarmés au sein même de la préfecture de police après l'attentat. La question de la radicalisation d'une poignée de policiers devient un peu plus prégnante. Emmanuel Leclerc avec nous dans un instant. Lubrizol vers un fonds de solidarité de 50 millions d'euros pour les agriculteurs touchés par les conséquences de l'incendie. Cela doit être confirmé. Encore trois ministres à Rouen ce matin. Les agences d'évaluation demandent des analyses plus étendues sur les conséquences sanitaires de l'incendie. Le Nobel de la paix attribué dans un climat de guerre, attribué au Premier ministre éthiopien pour ses efforts de paix avec l'Érythrée. Au Proche et Moyen-Orient, troisième jour de l'offensive turque et en mer Rouge, deux explosions sur un tanker iranien, des missiles, dit l'Iran, pas de confirmation. Le mode d'emploi du bac à la mode Blanquer, contrôle continu, épreuve anticipée. Le ministère dit tout dans une lettre aux recteurs et proviseurs. L'invité de ce journal est Édouard Geffray, le directeur général de l'enseignement scolaire. Il y a deux jours, le syndicat SNES demandait le report des épreuves en première, faute d'organisation claire. Dans ce journal encore, Thierry Bolloré, le directeur général de Renault, écarté de son poste. Clotilde Delbos prend l'intérim. Quelle réponse de la France après le rejet de la candidature de Sylvie Goulard à la Commission européenne? François Fillon reprend la parole. La mort d'une des voix d'Inter, Annette Ardisson, nous lui rendrons hommage. À 13h30, la Terre au carré. Bonjour Mathieu Vida.
Bonjour Bruno.
Quel est le menu aujourd'hui?
Je reçois l'astrophysicien Aurélien Barreau, dont les prises de position sur l'écologie ont été très remarquées ces derniers temps. Il appelle à une révolution pour répondre à l'enjeu environnemental et vous pouvez dialoguer avec lui en nous appelant dès maintenant.
01 45 24 7000. Avant cela, j'ai testé pour vous notre rendez-vous du vendredi. Faire du sport avec la Nintendo Switch. Julien Baldacchino a donné de sa personne.
Je lève les deux bras, j'ai donc l'anneau au-dessus de moi et je dois le presser. Les mouvements en fait sont assez simples. Le seul truc c'est de garder la condition physique.
Et le garçon a eu l'air de souffrir. Le 13h, vous avez le programme, c'est parti.
France Inter.
Sont-ils une poignée ou un peu plus? Combien de policiers, combien de gendarmes sur le chemin de la radicalisation islamiste? Question prégnante. 8 jours après l'attentat à la préfecture de police de Paris, le ministre de l'Intérieur a exigé lundi sur France Inter le signalement automatique des agents qui présenteraient des signes de radicalisation. C'est la société de vigilance à laquelle aspire Emmanuel Macron. Bonjour Emmanuel Leclerc.
Bonjour.
Deux policiers ont été désarmés cette semaine à la préfecture de police.
Oui, et de sources proches de la préfecture de police de Paris ont confirmé ce matin l'information de nos confrères du Parisien. Le désarmement de ces deux agents, dont un à Villeneuve-la-Garenne, qui avait été révoqué puis réintégré. Pour le deuxième agent, c'est également un vieux dossier, mais la préfecture de police a préféré appliquer un principe de précaution. Le cas d'un troisième policier susceptible d'être en voie de radicalisation est également pris en compte, selon nos informations, mais c'est en dehors de la zone de la préfecture de police de Paris. On sait qu'il y avait eu une cinquantaine de cas détectés comme problématique, Bruno, après les attentats de 2015. Selon le dernier rapport parlementaire sur le sujet, certains ont été radiés, mais il resterait toujours une quinzaine de fonctionnaires à Paris, une quinzaine sur le reste du territoire, et une dizaine de gendarmes, dont les pratiques religieuses, rigoristes notamment, sont suivies de très près. C'est le cas également chez les militaires, hein, où une dizaine de soldats avaient été repérés entre 2015 et 2016, avec des soupçons de passage à l'acte violent pour certains d'entre eux.
Merci Emmanuel Leclerc. Après cette attaque à la préfecture, il y a eu des appels téléphoniques mal veillant dans plusieurs commissariats, menaces ou très mauvaises farces. Certains appels pour approuver le geste du tueur, d'autres sur fond de musique islamiste. Deux arrestations ces dernières heures, l'une selon l'agence France Presse à Gap dans les Hautes-Alpes, une autre, vous me l'avez confirmé Emmanuel, à Vanves en banlieue parisienne. Et puis un homme soupçonné de radicalisation a été arrêté à Tourcoing dans le Nord. 15 jours après l'incendie dans les usines Lubrizol et Normandie Logistique à Rouen, trois ministres sont dans la ville depuis ce matin, mais toutes les réponses sur les conséquences sanitaires et environnementales ne sont pas encore là. Les agences sanitaires et d'évaluation, ANSES, INERIS, demandent des analyses plus larges. D'autres substances doivent être recherchées, nickel, phtalate, retardateur de flamme utilisé par les pompiers le jour de l'incendie. Des contrôles doivent être aussi menés dans l'alimentation animale. Le bilan vu de l'hôpital, c'est 250 consultations en 15 jours, mais rien de grave, pas d'hospitalisation. Bonjour Célia Kigray.
Bonjour Bruno, bonjour à tous.
En direct de Rouen, Célia, où sont donc trois ministres ce matin, santé, environnement, agriculture, comité pour la transparence et le dialogue. Que retenir à ce stade ?
Alors pour le moment, cette instance est davantage un comité de dialogue que de transparence, car des études sont toujours en cours. Ce comité a surtout permis ce matin aux 100 personnes présentes, élus, associations environnementales, médecins, représentants professionnels, d'exprimer leurs inquiétudes sur les conséquences sanitaires et économiques de cet incendie. Deux éléments nouveaux tout de même, le patron de l'usine Normandie Logistique, très affecté, dont un entrepôt a brûlé, a annoncé qu'il donnerait d'ici ce soir la liste complète des produits qui ont brûlé. C'est un élément qui manquait justement pour les analyses. Et deuxième annonce, même si l'ANSES continue de rassurer en précisant que les taux de dioxine relevés sont inférieurs au plan de contrôle, eh bien la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, promet un suivi, une étude approfondie des risques sanitaires d'ici plusieurs semaines.
Cette étude de risque sanitaire apportera des éléments clés pour orienter la surveillance épidémiologique adaptée à plus long terme qui pourra être mise en place. Cette étude permettra également d'évaluer s'il pourra s'agir d'une surveillance médicale ou de biosurveillance de la population.
Donc beaucoup de questions encore sans réponse pour la santé et pour le volet agricole. Le ministre Didier Guillaume en appelle à la responsabilité des entreprises au nom du principe pollueur-payeur. Il y a déjà 4 millions d'euros de pertes pour les éleveurs laitiers, 40 à 50 millions d'euros de pertes en tout.
Les agriculteurs sont des victimes, ce ne sont pas des responsables. Ils ne devront pas débourser un seul centime de leur poche. Et je souhaite que dans les tout prochains jours, les éleveurs laitiers qui ont jeté tout leur lait puissent recevoir les revenus qu'ils auraient dû avoir en vendant leur lait pour leur permettre de pouvoir vivre.
Mais pour le moment, l'entreprise Lubrizol n'a pas confirmé si elle abonderait vraiment un fonds de 50 millions d'euros pour aider les agriculteurs. Aucun chiffre précis n'a été avancé. Ce comité de dialogue et de transparence se réunira à nouveau d'ici 15 jours. En attendant, l'ANSES rendra un avis plus complet mardi ou mercredi.
Célia Kiray en direct de Rouen pour France Inter.
France Inter, le journal de 13h. Bruno Duvic.
Le prix Nobel de la paix 2019 a été décerné ce matin à Oslo, Norvège. Alors revenait avant le résultat les noms de Greta Thunberg, l'ado qui lutte pour le climat, le nom des militants qui viennent en secours aux migrants en Méditerranée. C'est un choix beaucoup plus classique qui est fait finalement.
Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2019 to Ethiopian Prime Minister Abiy Ahmed Ali.
Voilà, on vous l'a laissé en version originale. Le premier ministre éthiopien Abiy Ahmed reçoit le prix Nobel 2019. Bonjour Bertrand Galichet.
Bonjour Bruno.
C'est un jeune dirigeant de 43 ans qui a mis fin à 20 ans d'état de guerre entre son pays, l'Éthiopie, et l'Érythrée.
Une réconciliation menée tambour battant dès son arrivée au pouvoir en avril 2018, l'accord de paix avec l'Érythrée ayant été signé au mois de juillet de la même année après deux décennies d'un conflit interminable, notamment pour des questions de frontières. Entre 1998 et 2000, cette guerre de tranchées avait provoqué la mort de 80 000 personnes. On observe que l'autre signataire de ces accords, Isaias Afwerki, qui dirige l'Érythrée d'une main de fer, n'est pas concerné par ce Nobel. Le prix est remis à Abiy Ahmed pour reconnaître ses efforts et pour l'encourager, précise le jury, car l'entente retrouvée entre Éthiopie et Érythrée n'a rien d'idéal et beaucoup de points de friction demeurent. Sans le dire, le Nobel récompense aussi la gouvernance de Abiy Ahmed qui a libéré des centaines de prisonniers politiques et instauré la parité homme-femme parmi ses ministres. Il a aussi relancé l'économie de ce pays de 110 millions d'habitants qui se modernise. Mais l'Éthiopie reste très mal classée dans les indices de démocratie et le pays ne parvient pas à sortir des conflits ethniques qui le déchirent depuis des décennies. C'est le principal défi que doit relever Abiy Ahmed, ancien militaire, formé aux États-Unis et en Grande-Bretagne.
Oui, je le disais dans les titres, ce prix Nobel de la paix est décerné alors qu'un climat de guerre plane sur le Proche et le Moyen-Orient. Troisième jour de l'offensive terrestre de la Turquie contre les Kurdes dans le nord-est de la Syrie. 70 000 personnes ont fui la région selon le Programme Alimentaire Mondial. Le point sur les combats, le point sur ce qui est aussi, comme toujours, une guerre de communication entre Turcs et Kurdes. Aurélien Colli.
L'offensive turque se poursuit essentiellement sur les secteurs frontaliers de Tel Abyad et Ras Al Ain, deux villes qui ne sont pas tombées, mais les villages alentours sont sous contrôle turc. Ce matin, les autorités kurdes ont commencé à évacuer un camp de déplacés proche de la frontière. Un second, abritant notamment quelques 800 proches de djihadistes, pourrait suivre dans la journée. Direction le sud, la ville d'Asaké, en théorie située à l'extérieur de la zone de sécurité que la Turquie veut créer avec cette offensive. La Turquie qui affirme ne viser que des objectifs militaires militaire et avoir fait plus de 200 morts chez les combattants kurdes. Eux démentent ce bilan et dénoncent des bombardements sur des zones civiles qui ont fait plus d'une dizaine de morts et une trentaine de blessés. La guerre de communication bat son plein. Pour Ankara, les forces kurdes ne sont aussi que des terroristes liés aux séparatistes kurdes de Turquie. Les Kurdes de Syrie répondent en accusant les Turcs de s'appuyer, eux, sur des terroristes pour cette offensive, des factions islamistes qui combattaient autrefois le régime syrien, mais sont aujourd'hui financées, armées, entraînées et déployées par la Turquie. Erbil, Aurélien Colli, France Inter.
Les Européens vont examiner la semaine prochaine la possibilité de sanctions contre la Turquie, déclare ce matin sur France Inter la secrétaire d'État aux affaires européennes Amélie de Montchalin. En Europe encore, Donald Tusk, le président du Conseil européen, nous n'accepterons pas le chantage du président turc qui menace d'envoyer sur le vieux continent les centaines de milliers de migrants qui sont en Turquie si on lui laisse pas les mains libres lors de cette offensive. Alors que cette nouvelle phase de guerre a commencé cette semaine en Syrie, un autre front menace de s'ouvrir au Proche-Orient. En mer Rouge, au large de Jeddah, en Arabie Saoudite, deux explosions à bord d'un pétrolier iranien. A-t-il été visé par des missiles ? C'est ce que dit le propriétaire du bateau qui assure que tous les membres de l'équipage sont sains et saufs. En septembre, rappelez-vous, c'est l'Iran qui était accusé d'avoir mené des attaques contre deux sites pétroliers majeurs en Arabie. Bonjour Omar Waman.
Bonjour Bruno.
Omar, que sait-on des explosions de ce matin ?
Alors ce que l'on sait, c'est que ce navire iranien se trouvait à une centaine de kilomètres du port saoudien de Jeddah, vous l'avez dit, lorsqu'il a été touché par au moins deux missiles, probables, présumés, sept en tout cas, la version de la télévision d'État iranienne qui évoque un acte terroriste sans en apporter la preuve. Le tanker était ce matin en flammes, les explosions ont également provoqué une fuite de pétrole dans la mer Rouge. Le risque d'une marée noire est réel car le bateau transporte près d'un million de barils de brut. Cet incident survient, vous l'avez dit Bruno, sur fond de vives tensions entre les deux puissances régionales. Au mois de septembre dernier, l'Arabie Saoudite et son allié américain avaient accusé l'Iran d'être à l'origine des attaques qui ont fortement endommagé plusieurs sites pétroliers du royaume saoudien et obligé Riyad à réduire sa production d'or noir après ces attaques. On se souvient que les États-Unis avaient déclaré être prêts à riposter avant l'annonce de l'envoi de renforts militaires dans la région.
Un million de barils à bord de ce tanker, une fuite de pétrole. On n'en sait pas beaucoup plus sur les conséquences écologiques pour l'instant de cette histoire. Pas de flambée du Brent. Le baril était en hausse de 2,3% tout de même après l'attaque. Le bac à la mode Jean-Michel Blanquer. L'organisation patine, rien n'est prêt, il faut annuler les épreuves anticipées de janvier en classe de première. C'était l'attaque avant-hier du principal syndicat de profs dans le secondaire, le SNES-FSU. Faut-il y voir une réponse ? Le ministère adresse une lettre aux recteurs et proviseurs sur l'organisation de ce bac avec beaucoup de détails. Bonjour Édouard Geffray.
Bonjour.
Directeur général de l'enseignement scolaire numéro 2 du ministère. D'abord, vous nous confirmez que les épreuves en classe de première au début de l'année prochaine auront bien lieu pour ce bac ?
Ben oui, bien sûr, elles auront bien lieu parce qu'on a des élèves qui ont besoin de passer le bac et qu'on leur a déjà donné les règles du jeu. Donc elles auront lieu.
Alors allons tout de suite dans le concret pour les règles du jeu. Ce que passeront en début d'année les élèves de première, c'est histoire géo, les langues et pour la voie technologique, les maths. Est-ce qu'ils plancheront tous au même moment pour chaque épreuve ?
Non, parce que c'est un contrôle continu. Donc ce sont les établissements qui vont organiser ce contrôle selon leurs modalités, le plus possible dans le cours normal de la scolarité, puisque l'idée c'est de faire baisser la pression sur les élèves. Et en revanche, ils passeront sur des sujets qui eux viendront d'une banque nationale de sujets, de manière à garantir l'égalité des candidats devant les examens.
C'est un reproche qui est fait par le SNES sur le caractère national. Ces sujets choisis dans une banque, ça veut dire que tous n'auront pas le même sujet, en fonction des régions et même au sein d'un même établissement, deux élèves de première de classes différentes peuvent avoir des sujets différents.
Alors, on a des sujets, donc on a une banque nationale de sujets qui est conçue nationalement par des équipes collégiales, d'accord, qui sont faites pour être de niveau équivalent par rapport au même pan du programme.
Il n'y a pas un élève qui va avoir un sujet beaucoup plus difficile qu'un
autre. Exactement. Donc, un élève et son cousin situés chacun d'un bout à l'autre du territoire auront peut-être pas le même sujet, mais ils auront des sujets de même difficulté. Et ensuite, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que leurs copies seront anonymisées, ils ne seront pas corrigés par le professeur, et il y aura un mécanisme d'harmonisation au niveau académique, comme aujourd'hui pour les épreuves du bac qu'on connaît, vous et moi.
Est-ce qu'ils peuvent être, par exemple, corrigés par un professeur qu'ils ont eu en seconde et avec lequel ils pourraient avoir eu de mauvaises relations, qui pourraient reconnaître une écriture, que sais-je ?
Alors, la possibilité d'avoir été d'être corrigé par un professeur qui vous aurait déjà croisé dans une vie antérieure, statistiquement, ça peut arriver. De là, s'ils reconnaissent votre écriture et à ce qu'ils en tirent la moindre conséquence, très honnêtement, on est dans la science-fiction.
Où se passeront les épreuves ? Au sein des lycées ?
Oui. dans les classes habituelles, de manière à ce qu'une fois encore, les élèves soient le moins perturbés possible.
La réponse du SNES et la menace du SNES la demande en tout cas d'annuler les épreuves, il y a ces précisions que vous apportez ce matin. On est retourné voir les gens du SNES FSU. Écoutez ce que dit Sophie Vénétité, la secrétaire générale adjointe, après vos précisions.
Ça semble pas forcément plus clair. Certes, c'est un document qui apporte quelques précisions, mais c'est surtout un document qui confirme les grandes orientations de la réforme à travers un renvoi au local qui est extrêmement problématique. Je pense par exemple au choix des sujets. On a un exercice d'équilibriste assez intéressant puisqu'on a une phrase qui dit soit toutes les classes auront le même sujet, soit on pourra choisir des sujets différents selon les classes, tout en disant que dans la mesure du possible, il faudra privilégier telle ou telle option. Donc on voit bien que les choses sont encore loin d'être tranchées et ça se voit sur d'autres questions, hein, comme l'organisation des salles. La note laisse ouvertes différentes possibilités, mais elle donne notamment la possibilité de ne pas se mettre en mode examen, c'est-à-dire de rester en mode classe, 35 élèves dans la classe, une personne, un professeur pour surveiller. On nous a beaucoup parlé de triche lors des examens les années précédentes. Là, très clairement, dans une configuration normale, que va-t-il se passer, par exemple, sur la surveillance, la gestion des téléphones portables? Ce sont des questions extrêmement concrètes auxquelles cette note-là ne répond pas complètement.
Édouard Geffray, directeur général de l'enseignement scolaire, quelle réponse?
Écoutez, d'abord, moi ce que j'observe, c'est que le document qui est sorti aujourd'hui, qui répond objectivement à toutes les questions, il a été concerté avec les syndicats, notamment la FSU, et pas plus tard que vendredi dernier pendant 3 heures. Et tout le monde savait que ce document serait envoyé mercredi à l'ensemble des rectorats. Et donc j'observe la convergence des calendriers.
Alors cela dit, il y a une bonne question. Par exemple, il y a deux bonnes questions. Qui surveille?
Qui surveille le professeur?
Et quelle garantie qu'il n'y ait pas de fraude?
Qui surveille le professeur? Ensuite, on est dans une condition, j'allais dire, normale d'examen, c'est-à-dire que vous pouvez pas venir avec votre téléphone portable sur la table et que vous laissez votre sac à l'entrée. C'est banal. En revanche, compte tenu de la nature des épreuves, on dit que les élèves peuvent passer dans une salle normale de cours et qu'on n'est pas obligé d'avoir, j'allais dire, tout le poids, la pesanteur d'une épreuve finale, qui est une fois encore autant un facteur de stress qu'autre chose pour les élèves.
Est-ce que ça va semer la pagaille dans les lycées? C'est-à-dire, est-ce que la scolarité des autres pourra se dérouler normalement alors que ces épreuves se tiendront?
La scolarité des autres se déroulera normalement. C'est précisément le but de l'exercice. Et c'est faire peu de cas des capacités d'organisation des proviseurs que de croire qu'ils pourraient être autrement.
Question sur tout autre sujet, Édouard Geffray, des enseignants qui exercent leur droit de retrait au Lila après la mort d'un lycéen. On a appris ce matin également qu'un élève avait agressé le proviseur adjoint d'un lycée à Vierzon dans le Cher. Est-ce qu'il y a un climat de violence particulier en ce moment dans les établissements?
Alors il y a de manière récurrente des violences d'établissement. Ces violences, il faut être clair, elles sont inacceptables. Le professeur, c'est le premier visage de la République vis-à-vis des jeunes et des enfants.
Mais il y a une recrudescence
ou
pas?
On ne touche pas.
Il y a une recrudescence ou pas?
Alors, il n'y a pas, à notre connaissance, de recrudescence particulière. Il y a effectivement, ces derniers jours, il y a eu plusieurs actes d'une très grande violence qui seront, j'allais dire, par rapport auxquels on tirera un certain nombre de conséquences et de sanctions. En revanche, il n'y a pas de... Enfin, je veux dire, d'un strict point de vue statistique, et donc, il faut relativiser ce terme, d'un strict point de vue statistique, il n'y a pas de recrudescence particulière, même si chaque acte est inqualifiable et inacceptable.
Merci beaucoup Édouard Geffray d'être venu.
Merci à vous.
Dans le studio de France Inter, répondre à nos questions à propos d'éducation. Le Conseil constitutionnel s'est prononcé ce matin sur la hausse des frais d'inscription à l'université pour les étudiants étrangers. L'exigence de gratuité s'applique, dit le Conseil, à l'enseignement supérieur, mais cela ne fait pas obstacle à ce que des droits d'inscription modiques soient perçu. Comment se remettre du camouflet? Quelle réponse de la France après le rejet de la candidate présentée par Emmanuel Macron à la Commission européenne, Sylvie Goulard? Elle devait avoir un portefeuille très large. Le Parlement européen a jugé qu'elle ne présentait pas toutes les garanties d'intégrité. C'est l'image et potentiellement l'influence de la France d'Emmanuel Macron en Europe qui en a pris un coup. La secrétaire d'État aux affaires européennes, Amélie de Montchalin, était ce matin l'invitée de France Inter. Voilà sa réponse.
C'est d'abord une crise institutionnelle majeure pour l'Europe. Parce que sans commissaire français, la Commission ne peut pas se mettre en route. C'est aussi une crise parce que c'est la suite de ce qui s'est passé au Conseil européen. Il y a eu le pire de l'Europe pendant un jour et une nuit. Il y a eu des batailles entre les partis, entre les personnes. Et finalement, vous savez, il y a eu un sursaut. Et la proposition qui a été faite par Angela Merkel, par Emmanuel Macron, c'était une proposition de consensus. De dire on passe au-dessus des partis et on met surtout une équipe capable de porter le projet ambitieux, qui est très alimenté par la France, c'est vrai, qui à la faveur du vote des citoyens, qui d'ailleurs ensuite a fait l'unanimité aussi auprès des chefs d'État. Et quand on a fait ça, ça a dérangé.
Bonjour Yael Goz.
Bonjour Bruno.
Comment interprète-t-on, monsieur le chef du service politique, les mots d'Amélie de Montchalin ce matin sur France Inter?
Ce qu'elle dit en sous-titre, c'est que la nouvelle législature démarre mal, très mal. Si les deals passés ne sont pas respectés au niveau des chefs d'État, au niveau de la Commission, au niveau des partis, alors l'Europe va dans le mur, image déplorable donnée aux Européens eux-mêmes. Faut-il se dépêcher de trouver un plan B? Le maître mot à l'Élysée, c'est pas de précipitation, c'est aussi pression désormais sur Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission. À elle de nous dire maintenant ce qu'elle veut, explique un conseiller. Quel profil? Veut-elle un homme? Veut-elle une femme? Un techno? Un poids lourd politique? Il faudra quelqu'un capable de tenir tête à un système qui n'est pas tenu, résume un conseiller. Qui? Alors qui? Florence Parly, l'actuelle ministre des Armées? Michel Barnier et son impressionnant CV, sauf qu'il est PPE, parti qui vient d'humilier Emmanuel Macron en faisant chuter Sylvie Goulard. Bruno Le Maire, mais il a déjà dit non. Ségolène Royal, elle avait soutenu En Marche aux européennes plutôt que le PS. 24 heures après le camouflet, Bruno, on n'y voit pas beaucoup plus clair, d'autant que l'équilibre final dépend aussi de ce que feront les Roumains et les Hongrois. Oui. Seule certitude, l'Élysée ne lâchera pas sur la taille du portefeuille, hyper large, perdre la face sur Goulard, oui, mais pas sur les attributions, je vous les cite, industrie, marché intérieur, défense, espace, numérique, culture, ça ne sera pas négociable. Amertume en coulisses. On n'en serait pas là, dit un conseiller, si dès le début la France avait envoyé un candidat blanc comme neige.
À propos de politique, un nouveau chef à la tête du parti Les Républicains va-t-il permettre à cette formation de sortir de l'ornière? Les adhérents votent ce week-end pour départager Christian Jacob, Julien Aubert et Guillaume Larrivé. Le grand parti de droite a du mal à trouver sa place depuis la défaite de François Fillon. Eh bien, alors que les adhérents s'apprêtent donc à voter, l'ancien candidat à la présidentielle qui avait disparu du paysage sort de son silence, interview cash et détendue sur la radio suisse, Maxence Lambrec.
Il y a chez lui à la fois de l'amertume, des rancunes, de l'humour, un vrai détachement, mais aussi pas mal de cynisme.
Si on réfléchit bien, c'est pas grand-chose cette affaire de gilets jaunes. Il y a eu au maximum des manifestations, 150 ou 180 000 personnes dans toute la France à manifester. Je vais être un peu prétentieux, mais quand j'étais ministre des Affaires sociales, j'ai fait une réforme des retraites, j'ai mis 2,5 millions de personnes dans la rue.
Ah oui, vous avez fait mieux là.
Macron, c'est un petit joueur à côté. Ah ouais.
Voilà. Macron, c'est un petit joueur. Il se moque ensuite de son grand débat et cherche d'abord, comme Nicolas Sarkozy, à faire rire son auditoire. Il ne se prive pas d'enterrer sa famille politique.
Je pense que la droite française s'est suicidée avec ses divisions. Et ça commence pas avec la campagne présidentielle, c'est bien plus ancien. Il y a quand même, depuis une vingtaine d'années, des batailles uniquement personnelles, uniquement d'égo, et il n'y a pas beaucoup de débats idéologiques.
Vous l'avez compris, François Fillon exclut tout retour en politique.
Moi, je tourne la page, j'ai tourné la page, je fais autre chose, je regarde devant. Maintenant, il y a des comportements humains qu'on ne peut pas complètement pardonner.
Une phrase que beaucoup ont envie de lui retourner. François Fillon a l'air de vouloir exister autrement que par son procès qui s'ouvrira le 24 février.
La page Carlos Ghosn se tourne un peu plus chez Renault. Thierry Bolloré, le directeur général nommé à l'époque par l'ancien PDG, est démis de ses fonctions. Il est remplacé au moins provisoirement par la directrice financière Clotilde Delbos. C'est notre rendez-vous du vendredi dans ce journal de 13h. J'ai testé pour vous cette semaine faire du sport avec une console de jeu. Il y avait eu la Wii, puis la Wii Fit pour faire de la gym. Et bien dans la même veine, Nintendo propose Ring Fit Adventure sur sa très populaire console Switch. Bonjour Julien Baldacchino.
Bonjour.
Vous avez testé, quel est le principe?
Alors l'objectif c'est de bouger vous-même pour contrôler le héros du jeu dans l'écran qui est face à vous. Et ça se fait sans manette, mais avec un anneau en plastique qu'on tient devant soi avec les deux mains et une sangle accrochée autour de la jambe pour capter les mouvements. Hier pour le test, j'étais accompagné par une coach. La partie commence.
Allons-y.
Allez-y. Donc je vous ai dit, vous êtes au cœur du jeu, vous êtes la manette. On va pouvoir commencer.
Donc là effectivement, je suis en train de courir sur place avec toujours la manette accrochée à ma jambe et le personnage se déplace à peu près au même rythme que moi et donc je dois presser l'anneau.
Il ne faut pas hésiter du coup à faire des mouvements et à bouger le tronc, voilà, pour orienter le ring cone sur les côtés.
Et j'appuie à nouveau pour ouvrir une porte et une deuxième et une troisième.
Pour monter les escaliers, on va faire des montées de genoux.
Je lève les deux bras. J'ai donc l'anneau au-dessus de moi et je dois le presser.
Alors maintenant que vous connaissez un petit peu le principe de la prise en main, n'hésitez pas à essayer de tirer sur des éléments de décor pour essayer de trouver des objets cachés.
Les mouvements en fait sont assez simples. Le seul truc c'est de garder la condition physique.
Ouais.
parce que ça a l'air très physique cette histoire quand même.
Eh oui, c'est toute l'idée, le jeu prend votre pouls régulièrement, compte toutes les calories dépensées, mais le plus éprouvant, ce sont les combats contre les ennemis virtuels.
Alors, comment combattons-nous des ennemis dans ce jeu? On va faire des combats de fitness, donc avec différents exercices de fitness, et infliger des dégâts aux ennemis.
Donc je peux faire des squats, le genou poitrine, ou bien la posture de la chaise. Donc là, je vais choisir par exemple... certainement pas le genou poitrine, on va essayer les squats.
Encore une fois, mieux vous faites l'exercice, plus c'est efficace, donc plus vous allez infliger de dégâts à votre ennemi. On descend, parfait, on maintient et on revient.
Je remonte, j'inflige un coup au petit monstre.
Alors on a chaud, on a transpiré.
C'est physique et ça demande aussi de la coordination.
Bon, à la fin, on achète ou pas ?
On achète, c'est un bon moyen de se motiver à bouger car le plus gros avantage du jeu par rapport à ses prédécesseurs, c'est justement son aspect ludique. On fait de l'exercice sans voir passer le temps.
On achète si on veut, évidemment, chacun est libre. Le jeu sort vendredi prochain, ça coûte une 60aine d'euros. Merci Julien Baldacchino. Un mot de football, l'équipe de France, les qualifs pour l'Euro 20h45 ce soir. Les Bleus jouent en Islande. Et puis une très triste nouvelle pour nous tous ici à France Inter. Ce nom vous dira forcément quelque chose si vous êtes des auditeurs fidèles. Nous venons d'apprendre la mort d'Annette Ardisson. Elle était une des personnalités, une des voix de cette radio, de cette génération qui avait fait ses tout débuts à l'ORTF, puis mené toute sa carrière au sein de la maison. Et Annette était aussi de ceux qui ont assez de talent et les épaules pour mener la grande interview du matin. Question par A plus B avec Bernard Brigoulex à partir de la fin des années 80. Ici, avec Lionel Jospin, qui allait devenir le premier ministre de cohabitation de Jacques Chirac en 1997. C'était encore la campagne des législatives.
Lionel Jospin, bonjour.
Bonjour.
Vous avez lu l'article de Jacques Chirac. Jusqu'à ces dernières heures, l'attitude des socialistes était de dire qu'après tout, compte tenu des antécédents, une intervention du président de la République dans la campagne législative n'avait rien de choquant, pour autant qu'il reste, c'est Laurent Fabius qui avait dit ça, pour autant qu'il reste dans des limites raisonnables. Alors aujourd'hui, êtes-vous dans le même état d'esprit après cette lecture ?
Bah, le président a pris la plume, alors je prendrai la mienne, et je m'exprimerai, et j'écrirai.
En tout cas, si vous ne l'étiez déjà, vous voilà fixé sur les arguments de campagne de l'actuelle majorité à l'encontre de votre programme. Vous savez que ça porte sur les 700 000 emplois que vous voulez créer et qui sont considérés comme autant de création d'impôts, sur la réduction autoritaire du temps de travail.
Oui, vous formulez ça très bien.
Je la formule telle que c'est écrit.
Voilà, Annette qui ne lâchait pas le morceau, elle avait aussi la bise qui claque, la poignée de main franche et la voix toujours cordiale et toujours de bonne humeur. Une cérémonie pour dire adieu à Annette Ardisson est organisée au Père Lachaise, mercredi à 15h30.
La météo avec Région Job. Trouvez le job qui va vous faire aimer le lundi avec Région Job.
Élodie Calac.
La douceur s'installe, 18 à 23 degrés au nord, 22 à 25 au sud, jusqu'à 29 sur le sud-ouest. Près de la Manche, il faut se contenter d'un ciel gris avec quelques pluies et du vent jusqu'à 80 km à l'heure. Du pays nantais vers la région parisienne et le nord de la Lorraine, c'est plus variable, des éclaircies se dessinent. Plus au sud, le soleil est bien installé, ça devient nuageux quand même sur le Languedoc et le Roussillon. Le vent de sud-est souffle de l'Aude jusqu'en région toulousaine. Le week-end prendra des allures estivales, le ciel sera souvent partagé entre éclaircies et nuages, un peu de pluie près de la Manche et sur le Languedoc-Roussillon, mais la douceur gagnera du terrain. Dimanche, il fera 22 degrés à Rennes et à Paris, 25 à Strasbourg, Bourges, Limoges et Marseille, 28 à Toulouse et 30 degrés à Agen.